Bonjour, en ce lendemain de Noël, 26 décembre. Nous commençons déjà la série, la longue procession des martyrs de la foi chrétienne, de ces gens qui se sont attachés à Jésus au point de donner toute leur vie, comme il l'a fait, à son exemple. Et dans l'histoire de l'Église, bien, elle s'ouvre par Étienne, saint Étienne. C'est le premier imitateur de Jésus-Christ. Le premier, après lui, a témoigné, si on peut dire, par sa mort, n'est-ce pas, de cette libération qui est donnée par Dieu, notre Père, premier à suivre jusqu'au bout ce chemin bien étroit, mais qui est très beau à suivre, et qui a été inauguré par Jésus, Fils de l'homme. Ce récit, d'ailleurs, du martyr d'Étienne est inséré dans la Bible. Il est dans votre Bible, dans votre Nouveau Testament, tout de suite après les Évangiles, dans cette première histoire de l'Église, qu'on appelle les actes, les actions, si vous voulez, des apôtres. Et ce récit va contribuer tout au long de l'histoire du christianisme à maintenir, évidemment, la mémoire, le souvenir de ce saint que l'on se figure être jeune et beau. C'est dans la tradition, on n'en sait rien. Il est le premier martyr. On l'appelle d'ailleurs le proto-martyr. Ça vient du grec protos, qui veut dire premier. C'est son titre particulier qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages, le proto-martyr Étienne. C'est aussi le premier diacre, ça peut intéresser beaucoup de gens qui ont des amis, des parents qui sont diacres. Ces diacres mariés d'aujourd'hui ou parfois célibataires et qui le demeurent, mais que l'on appelle des diacres permanents, n'est-ce pas? Ben alors c'est le premier diacre, lui. Avec lui, puis ses amis, ses compagnons, a commencé cette espèce de long processus, si on peut dire, d'organisation de l'Église. L'Église a commencé à se constituer, à s'organiser, un peu avec Étienne, à la suite de toutes sortes d'initiatives qui venaient pas du Christ Jésus lui-même, mais qui venaient des hommes qui s'occupaient de propager le mystère sacré et le souvenir de Jésus et la vie de Jésus dans les baptisés. Il fallait organiser ça, Et qui c'était? Bien, c'était évidemment les apôtres, et les principaux disciples, et les premiers évêques et prêtres, et finalement, bien, c'est comme ça qu'ils se sont organisés avec des diacres pour partager des responsabilités. Alors, ceux qui écrivent l'histoire de l'Église et qui se penchent sur les origines chrétiennes de tout ce qui s'est constitué pour établir le christianisme à travers le monde, bien, c'était une longue enquête que l'on fait auprès des premières communautés. Comment tout ça s'est composé? On peut se demander aussi quel était le rapport entre les Juifs de Palestine puis les Juifs qui venaient, eux, de ce qu'on appelle la diaspora. Vous savez ce que c'est, la diaspora. Le son du mot, d'ailleurs, dit presque ce que ça veut dire. Dispersés, ceux qui étaient dispersés à travers le monde. Et alors, le rôle exact des premiers chrétiens a servi à apaiser les tensions qu'il pouvait avoir entre ces deux sortes de Juifs. Un peu comme à Montréal ou en Israël, il peut y avoir parfois des petites tensions entre les Juifs séfarades et les Juifs ashkénazes, qui ont des traditions différentes. Et alors là, les Juifs de Palestine, ou si vous voulez d'Israël, avaient des traditions légèrement différentes de ceux qui venaient d'ailleurs, qui avaient été mêlés avec la Grèce et les autres. Et on retrouvait ça à l'intérieur du christianisme, puisque de part et d'autre, ces Juifs-là, il y en avait qui se convertissaient au Messie, Jésus, dont on a fêté l'incarnation, évidemment, hier. Nous sommes en pleine célébration. J'espère, d'ailleurs, que vous avez bien célébré ça, dans la joie de ce que c'est vraiment, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, sans doute maladroitement, vendredi dernier. Pour la masse des croyants, d'ailleurs, la figure de saint Étienne, elle reste celle, toujours, comme je vous ai dit, d'un beau et doux jeune homme, plein d'amour, d'enthousiasme, et qui est tué par la rage de certains Juifs. Et il faut comprendre la rage de certains Juifs, parce que Étienne leur a dit des choses très étranges et très audacieuses. Il ne se gênait pas pour proclamer sa foi chrétienne. D'ailleurs, il était tellement proche du martyr même, si on peut dire, de Jésus, qui a été martyrisé lui-même, c'est tellement près de ce martyr qu'il conforme, si on peut dire, spirituellement toute sa vie, jusque dans sa mort avec Jésus. Et on a fait de lui un des amis par excellence de Dieu, et par conséquent l'un des intercesseurs les mieux placés au ciel pour obtenir des faveurs de Dieu, des grâces particulières. Et c'était un extraordinaire succès que la dévotion à Saint-Étienne, à travers les premiers siècles, particulièrement à partir du moment où, au 5e siècle, on a trouvé ses restes. On a retrouvé sa tombe. Donc, Saint-Étienne, ça veut dire quoi ce nom-là? Vous savez que Stéphane, c'est le même nom qu'Étienne. Il y en a qui ignorent ça, hein? Le vrai nom en grec, c'est Stéphanos. Et Stéphane est encore plus près du nom original, qui veut dire couronne. Et Saint-Étienne est vénéré non seulement comme le premier martyr du Christ, je vous ai dit le proto-martyr, pour employer cette expression qui est consacrée à partir de deux mots grecs, mais il a été au cœur de la jeune communauté qui vivait à Jérusalem, tout près, là, puis du souvenir, et puis de la présence de Jésus, là, dans des cœurs tout vibrants. Il s'est trouvé un beau jour, dans cette communauté, une querelle intime. Il y avait les hellénistes, c'est-à-dire les juifs qui étaient justement de la diaspora, qui étaient occidentalisés, dirait-on. Hein? On comprend mieux quand on dit ça. Ils sont occidentalisés. Ils ont perdu un peu leur caractère, comme on dit, oriental, dans le sens du Proche-Orient. Là. Ils reprochaient à leurs frères, qui étaient les Hébreux, là, ou les Juifs du pays, qui étaient restés fidèles aux usages traditionnels, ben, ils leur reprochaient de négliger leurs veuves dans les distributions quotidiennes des biens, comme on vient de le faire, la distribution de nourriture, de biens aux plus malheureux. Alors, là, les 12 apôtres ont convoqué l'assemblée des disciples. Les disciples, c'est ceux qui étaient qui ont connu Jésus, mais qui n'étaient pas membres des 12 apôtres, qui n'étaient pas, en principe, des évêques, dirait-on, qui n'avaient pas ce pouvoir épiscopal, qui n'étaient pas encore tellement définis. Tout ça se fait petit à petit dans l'Église sous la conduite de l'Esprit-Saint. Alors, ils ont dit, les apôtres, nous ne pouvons pas délaisser l'enseignement de la parole de Dieu. Pour faire le service des tables, c'est quoi? C'est de nourrir, aider les malheureux, les veuves en particulier. Ils ajoutent, cherchez donc parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Et nous autres, bien, nous garderons notre lot, qui est de prier et de prêcher. Alors l'Assemblée a désigné Étienne, rempli de foi et de l'Esprit-Saint, nous dit-on dans les textes des Actes des Apôtres. Ils ont choisi 6 autres, évidemment, pour faire 7, là, qui portaient chacun un nom grec. Et l'un d'eux, Nicolas, était ce qu'on appelle un prosélyte d'Antioche. C'était un nom juif d'origine, celui-là. Il avait adopté la religion juive, y compris vraisemblablement la circoncision tout de même. Puis les apôtres, après une prière, leur ont imposé les mains. Et Étienne, rempli de grâce et de puissance, mais il accomplissait des grands prodiges, des grands miracles parmi le peuple. Et alors, sont intervenus des membres de la synagogue, qui étaient des juifs comme Étienne. Hein? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas voir les nouveaux chrétiens comme des non-juifs. Ce sont des juifs, eux aussi. Hein? Et c'est ça qui crée bien des problèmes. C'est pas facile. Imaginez les Juifs qui restent fidèles à leur foi. Je vous en ai déjà parlé quelquefois. Cette foi qui est certaine que Dieu est, comme il dit dans l'Exode, hein, dans les premiers livres de la Bible. Hein. Dieu se révèle comme étant celui qui est. n'a pas d'yeux, il n'a pas de main, il n'a pas de corps, il est comme par essence, il est. Cette foi juive admirable, qui est la nôtre aussi, qui nous ont transmise, eh bien ces juifs sont épouvantés devant les affirmations des chrétiens qui adorent un homme, qui adorent celui qu'ils considèrent comme le Messie. Les autres juifs, eux, attendent un Messie qui pourrait, au besoin, être un homme puissant, au besoin descendant de David, comme Jésus, mais pas quelqu'un qui se dit être Dieu, comme je vous ai expliqué vendredi dernier dans ces textes admirables que l'on a dans les évangiles, où Jésus affirme clairement sa divinité, et la démontre, d'ailleurs, comme je vous ai tout expliqué ça, longuement. Alors, il ne faut pas en vouloir aux Juifs. Il faut regarder ça, et là, je vais vous parler de ce martyr épouvantable, mais il faut voir ça sans acrimonie à l'égard des Juifs, aucunement. D'autant plus que saint Paul était le grand responsable de ce martyr, lui qui n'était pas saint encore, selon les chrétiens, qui était un Juif fidèle, exigeant et irrité par ces chrétiens. Il s'appelait Saul à l'époque. Alors donc, les membres de la synagogue sont intervenus. C'était la synagogue des affranchis, c'est-à-dire probablement du groupe à Jérusalem, qui était en liaison avec la colonie juive de Rome, mais aussi la colonie des Juifs, des Cyrénéens, des Alexandrins. On pense d'ailleurs qu'Étienne venait d'Alexandrie, c'est en Égypte, ça. C'est un Juif qui venait de là-bas. Et puis, il y avait aussi des Juifs qui venaient de Cilicie, puis même d'Asie. Alors, ils se mirent à discuter avec Étienne. Ils voulaient le ramener, eux, ils ont dit, Étienne est perdu, il est rendu malade, et il est rendu dans une secte, il faut l'arracher à la secte, hein. Essayons de comprendre ça, puis il ne faut pas s'irriter, je vous le répète, contre les Juifs. Quand on voit le mot « juif », souvent on dit « ah, c'est des méchants », mais pas du tout. Et alors, les Juifs n'étaient pas de taille à faire face à la sagesse, puis à l'Esprit Saint qui parlait par la bouche d'Étienne. Hein. Alors, ils se sont procurés des hommes pour dire « nous l'avons entendu tenir des propos blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, ce qu'il n'avait jamais fait ». Mais ils sont allés chercher, et ça c'est un peu malhonnête de leur part, ces Juifs-là, quelques-uns d'entre eux, en tous les cas, ont fait ce geste malhonnête, d'aller chercher des gens pour porter des témoignages faux, des faux témoignages. Et de la sorte, bien, ils ont fait marcher le peuple, les anciens, les scribes, ils ont entraîné contre Étienne. Ils faisaient ça dans un bon but, dans un sens, pour sauver leur groupement juif et éviter qu'ils s'insèrent parmi les Juifs des sectes, dont la secte à laquelle nous appartenons, nous, mais nous savons fort bien que ce n'est pas une secte. Nous savons fort bien que c'est la volonté de Dieu, et que c'est Dieu qui a arraché à l'Ancien Testament les grandes vérités du Nouveau Testament, et les grandes vérités du Nouveau Testament, on les trouve en partie dans l'Ancien Testament. Hein. C'est un long processus avec l'aboutissement en Jésus-Christ. Et alors donc, ils ont enlevé Étienne par surprise, ils l'ont traîné au Sanhédrin. Ça vous dit quelque chose, le Sanhédrin? Souvenez-vous, Jésus a comparu devant le Sanhédrin, lui aussi. Puis ils ont fait venir en justice les faux témoins. Puis ils ont dit, cet individu, Étienne, déblatère sans arrêt contre notre saint lieu, le temple, et la loi, qui est écrite dans les premiers livres de la Bible. Nous lui avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, doit détruire ce lieu et changer les institutions qui nous viennent de Moïse. Alors, tous les yeux dans le Sanhédrin se sont braqués sur Saint-Étienne qui était accusé, et ils voyaient, qu'est-ce qu'ils ont vu, dit le texte dans la Bible, dans les Actes des Apôtres? Ils voyaient comme un visage d'ange. C'est assez émouvant. Et c'est arrivé souvent. Vous savez que des martyrs qui avaient des visages d'ange au moment de leur martyr, mais ça c'est vu au XXe siècle. Je vais vous en raconter une histoire tout à l'heure. Ce sont des Vietnamiens, c'est bouleversant. Le martyr qui a été tué en 1940 au Vietnam avait comme ça un visage d'ange. Il s'appelait Philippe. Alors le grand prêtre, au temps d'Étienne, l'a demandé, « En est-il bien ici ?» Ainsi, c'est-à-dire, c'est la question qu'il pose à Étienne. Et Étienne lui dit, « Mes frères et mes pères, il les appelle ses frères, hein? Il est juif. Voyez comme notre religion vient vraiment de la religion juive. Il faut donc prendre conscience de ça jusqu'au fond de notre être. Hein? Mes frères et mes pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham, à notre père Abraham. Alors là, il y a un raccourci de l'histoire d'Abraham, puis de Joseph, puis de Moïse. Là, je vous en fais grâce. Et il raconte toute l'histoire là, du peuple de Dieu qui est évoquée. Mais ça, c'est pour faire rejaillir, si on peut dire, la bonté de Dieu. Et quoi? Les déficiences du peuple juif devant toutes les bontés de Dieu. Hein? Vous savez que le peuple juif a eu tendance toujours, parce qu'il était faible, et puis il ne faut pas l'accuser, mais nous faisons la même chose, nous aussi. Hein? Ils ont assassiné leurs prophètes. Nous, on les assassine pas, mais on les méprise, on ne les écoute pas, nos prophètes. Nos gens qui nous enseignent les vraies vérités de l'Évangile, on les écoute mal, hein? On les envoie promener parce qu'on dit qu'ils exagèrent. Bon, bah, voyons donc, c'est pas si difficile, il faut pas tant en faire, vous en faites trop, vous en demandez trop. Le pape en demande trop, le pape est trop exigeant, Jean-Paul II exagère. Exagère-t-il? Ou n'est-il pas un prophète, justement, comme les anciens prophètes de l'Ancien Testament que l'on méprise? Il faudrait peut-être se poser la question. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire, encore, cet Étienne, cet accusé, accusateur? Je vous ai dit qu'il n'y allait pas de main morte. Eh bien, c'est dans les Actes des Apôtres, il leur dit à ses frères juifs, « Nuque raidie, oreilles et cœurs incirconcis. Toujours, vous résistez à l'Esprit-Saint. » Vous êtes bien comme vos pères, vous autres. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient l'avenir du juste. Du juste, c'est-à-dire de Jésus. Ils ont, ou du Messie, si vous voulez. Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste. Celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Oui, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, ils ne l'avaient pas gardée. Alors, pour le coup, les Juifs, évidemment, ont frémi de rage. J'aurais été parmi eux, j'en aurais fait autant. Il faut bien comprendre, ils se grincèrent des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit-Saint, les yeux au ciel, il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, dit-il. C'est ce qu'il raconte. Il a prononcé, « Oui, je vois les cieux ouverts. » Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Imaginez le blasphème épouvantable. C'est épouvantable pour les Juifs, hein? Eux, de pousser des clameurs, de se boucher les oreilles et de se ruer en masse sur lui, de le traîner hors de la ville et de le lapider. Oui, ils l'ont lapidé. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme qui s'appelait Saul. Saul. C'est le futur apôtre Paul, comme vous savez tous, hein, qui à ce moment se tient pieusement là. Il garde les vêtements pour les bourreaux du Christ. C'est assez saisissant quand on y pense. Le futur saint Paul. Et pendant qu'on le lapidait, bien Étienne priait. Et ça, c'est parmi les plus beaux textes de l'histoire de l'Église, et c'est dès le début, dans les Actes des Apôtres. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il s'est agenouillé, puis a crié d'une voix forte, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sur cette parole, il s'est endormi. Et des hommes pieux l'ont enseveli. D'après le texte, on dit qu'ils firent sur eux de grandes lamentations. C'étaient les nouveaux juifs convertis. Et Saul, lui, qui avait, pour ainsi dire, presque présidé à ce martyre, se félicitait de cette exécution. Car Saul, le futur saint Paul, ravageait l'Église et luttait contre les chrétiens. Et voilà donc ce que les Actes des Apôtres. Comme je vous ai dit, c'est la première histoire d'Église. Mais les Actes des Apôtres, voilà ce qu'ils nous disent de saint Étienne. Qui a écrit les Actes des Apôtres? C'est saint Luc, un médecin, évangéliste. Il montre, en somme, comme bien la mort de saint Étienne ressemble à celle du Christ. il y a des faux témoins. Puis il y a les dernières paroles qui sont identiques. Et saint Étienne meurt, pour ainsi dire, de la même façon que Jésus-Christ. Et c'est ce qui faisait dire à saint Fulgence de Ruspe, c'est la lecture que l'on trouve aux bréviaires aujourd'hui. Hier, nous avons célébré la naissance temporelle de notre roi éternel. Aujourd'hui, nous célébrons la passion triomphale de son soldat. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal. C'est beau comme expression, sortant du palais d'un saint virginal. C'est ça, au fond, nos naissances, nous-mêmes, de nos mères. A daigné visiter notre monde, et aujourd'hui, bien, le soldat sortant de la tente de son corps, il compare le corps à une tente, sortant de la tente de son corps, est parti pour le ciel en triomphateur. Et voici, je voudrais compléter en disant que, au sujet de Saint-Étienne, il ne faut pas s'imaginer que la sépulture de ce premier martyr a eu un caractère triomphal, pas du tout. Ça a pris à peu près 2 siècles avant qu'on enterre de façon triomphale Saint-Cyprien, n'est-ce pas, 2 siècles plus tard. Saint-Luc, d'ailleurs, nous raconte qu'Étienne a été enseveli par de braves gens, c'est dans les Actes des Apôtres, hein, qui ont fait sur lui de grandes lamentations, suivant l'usage des anciens. Et en l'an 415, dans le récit de la découverte des restes, ce qu'on appelle l'invention, eh bien, il y avait un tas de pierres qui avaient été élevées en témoignage de deuil. En somme, la consternation des premiers jours a été remplacée par un véritable enthousiasme quand même, une admiration, hein, et presque de l'envie pour ceux que le Christ avait appelés à verser son sang pour lui. Mais il a fallu attendre longtemps encore pour voir les chrétiens se réunir auprès des tombeaux des martyrs au jour anniversaire de leur mort, comme nous faisons ici à cette émission, pour célébrer la mort, l'entrée au ciel des saints et des martyrs. Hein. Les martyrs honorés, là, les premiers ne furent pas les plus anciens d'ailleurs, mais ceux dont le triomphe était tout récent, et à cette époque, Jérusalem avait subi les deux catastrophes là, épouvantables de l'an 70 puis de l'an 135, mais Saint-Étienne jouissait d'un avantage que déjà saint Augustin avait fait remarquer. Il avait dit, c'est dans un sermon qu'on trouve dans les Pères latins là, de Migne, « Alors que pour les autres martyrs, nous ne trouvons qu'à grand-peine leurs gestes, c'est-à-dire leurs actions, pour les lire lors des fêtes solennelles, eh bien sa passion à Saint-Étienne, elle est dans un livre canonique, c'est-à-dire dans un livre de la Bible, le livre des Actes des Apôtres, qui appartient au canon des Écritures. » Et c'est vrai que c'est extraordinaire, en un sens, hein? Et en effet, ce n'est pas sur son tombeau, mais autour de ce texte qu'est née la dévotion à Saint-Étienne. Et dans la seconde moitié du IVe siècle, on constate d'ailleurs qu'il appartient au groupe des saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, que déjà en Antioche, on commémorait pendant les jours qui suivent la fête de Noël. Et pratiquement, Saint-Étienne est donc fêté le 26 décembre, sauf à Constantinople, puis dans certaines églises qui en dépendent, des églises orthodoxes, où il est fêté le 27. Au Québec, nous avons beaucoup de Saint-Étienne, des endroits qui s'appellent Saint-Étienne. Je vous en donne pas la liste complète, mais ça pourra intéresser certaines personnes. D'autant plus qu'il y en a près de Montréal, Saint-Étienne de Beauharnois, n'est-ce pas? Qui est voisine immédiate de la ville de Beauharnois. C'est Saint-Étienne de Beaumont, sur le bord du Saint-Laurent, 15 kilomètres à l'est de Lévis. De Saint-Étienne de Bolton aussi, à quelques kilomètres d'Eastman. Saint-Étienne de Lauzon. Et oui, des chutes de la Chaudière. Puis Saint-Étienne des Grès. Et oui, dans la région de Trois-Rivières. Et ainsi de suite. C'est signe qu'il y a une bonne implantation du respect que l'on doit vouer, me semble, à ce saint. D'autant plus que l'on trouve dans les prières d'aujourd'hui cette belle oraison, très simple, en 3 lignes. Et on pourrait prier Dieu, justement, en lui disant, au début de cette deuxième partie de l'émission consacrée à Saint-Étienne, « Apprends-nous, Seigneur, notre Père, l'amour de nos ennemis. » Oui, apprends-nous l'amour de nos ennemis. À l'exemple de Saint-Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Bien oui. Implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Vous savez que ça se pratique au XXe siècle? J'en ai vu des témoignages à la télévision. De gens qui sont sortis de tortures épouvantables en Amérique du Sud et qui témoignaient à la télévision américaine en disant qu'ils avaient réussi à convertir leurs bourreaux parce qu'ils priaient pour leurs bourreaux pendant qu'ils étaient torturés. Au XXe siècle, c'est admirable. C'est absolument saisissant quand on lit ces choses-là. Jérusalem, qui s'était laissé précéder dans la dévotion à Saint-Étienne, avait, grâce à un prêtre, Lucien, ils ont pris une revanche. Ils ont transformé la fête votive du 26 décembre en une fête de la translation des reliques, parce qu'ils ont trouvé les reliques. C'est Lucien, ce fameux prêtre, qui n'était sans doute pas très expert à manier la plume, mais il a eu la chance de trouver un secrétaire bénévole dans un prêtre espagnol qui s'appelait Avit et qui résidait alors à Jérusalem, et qui, après l'avoir questionné, a rédigé en grec un récit où il s'effaçait au point de laisser parler constamment Lucien à la première personne. Alors, ce prêtre espagnol, Avit, a tout mis ça dans la bouche de Lucien. Et puis, il a traduit ensuite en latin et expédié des reliques et une lettre d'introduction à l'évêque de Braga, Balconius. Et nous allons parcourir ce récit sans le reproduire entièrement, parce que c'est beaucoup trop long. Je vais en faire un très bref résumé. Puis je vais vous donner ensuite les quelques explications nécessaires. Donc, un vendredi, le 3 décembre, je m'étais endormi à la nuit tombante sur ma couche. C'est Lucien qui parle, hein? C'est écrit par le prêtre Avit. Hein? Un vendredi 3 décembre, je m'étais endormi à la nuit tombante sur ma couche dans le saint lieu du baptistère où j'avais l'habitude de coucher pour garder les objets servant au ministère. Et à la troisième heure de la nuit, je tombai dans une sorte d'extase, un demi-sommeil, et je vis un vieillard à la taille élevée, prêtre plein de dignité, aux cheveux blancs, à la barbe longue, revêtu d'une étole blanche, orné de glands d'or avec une croix au milieu. Il tenait une crosse d'or à la main. Il s'approcha de moi et, se plaçant à ma droite, il me toucha de sa crosse d'or, puis, m'appelant trois fois par mon nom, « Lucien, Lucien, Lucien !» Il me dit en grec, « Rendez-vous à la ville de Jérusalem. Et dites au saint homme Jean, qui en était l'évêque, combien de temps serons-nous retenus enfermés ?» Et tarderez-vous à nous ouvrir les portes? En somme, c'est un mort qui voudrait être libéré de son tombeau. C'est un peu spécial. Il ajoute, ouvrez sans retard le tombeau où nos restes ont été déposés sans soin. Et Lucien dit, je lui répondis, qu'êtes-vous donc, Seigneur? Et qui sont ceux qui sont avec vous? Et voici sa réponse. Je suis Gamaliel qui ai élevé Paul, l'apôtre du Christ, et qui lui enseignait la loi à Jérusalem. Et on voit ça, le nom de Gamaliel dans l'Évangile. Celui qui est placé près de moi dans le tombeau du côté de l'Orient est le Seigneur Étienne, que les princes des prêtres et des Juifs ont lapidé à Jérusalem pour la foi du Christ, hors de la ville, à la porte du Nord, sur la route de Cédar. J'ai envoyé de nuit des hommes religieux pour enlever le corps et le porter dans un de mes chars à ma maison de campagne appelée Kafar Gamala, c'est-à-dire maison de campagne de Gamaliel, à 20 000 de la ville, et là, je lui fis des funérailles qui durèrent 40 jours, et je le fis déposer dans le monument que je m'étais fait faire en cet endroit, dans la case située du côté de l'Orient. Alors, c'est des vieux contes, des vieux textes, c'est amusant de lire ça, un peu comme on lit le petit Poucet, etc., mais il y a toute une symbolique au fond de tout ça. Hein? Alors, je passe par-dessus des passages, je vais sur d'autres choses. « Sur ce, dit Lucien, je me suis éveillé et j'ai adressé cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, si cette vision vient de vous et n'est point une illusion, faites qu'elle se renouvelle une seconde et une troisième fois, quand vous le voudrez, et de la manière qu'il vous plaira. Je me mis donc à jeûner, à ne me nourrir que de fruits secs jusqu'au vendredi suivant. Alors là, il y a une seconde apparition de Gamaliel qui a eu lieu ce vendredi, puis une dernière, une troisième vendredi encore. Bon, je passe par-dessus tout ça, puis il écrit, « Je bénis le Seigneur et me rendis aussitôt à la ville, auprès de l'évêque Jean. C'est là qu'on va trouver le tombeau de Saint-Étienne. Il dit, je lui ai rapporté toute ma vision. En entendant ce récit, l'évêque Jean se mit à fondre en larmes de joie et me dit, « Allez, faites des fouilles dans le champ, et si vous trouvez quelque chose, faites-m'en part. » Bon, je passe par-dessus toutes sortes de choses, et nous arrivons là. Nous nous dirigeâmes donc vers un tumulus. Mais nos fouilles ne nous y firent rien découvrir, alors nous nous rendîmes au tombeau, que la même nuit, un moine avait vu en songe, et après l'avoir fouillé, nous trouvâmes trois cercueils. Je m'empressai donc d'aller annoncer la chose à l'évêque, qui était alors à Lydda. Il présidait un synode, alors il prit avec lui deux autres évêques, Eutonius de Sébaste et Éleuther de Jéricho. Quand ils ouvrirent le cercueil de Saint-Étienne, la terre trembla. Il se répandit une odeur si douce et si suave que nul ne se souvient d'en avoir senti une pareille. Vous savez, c'est peut-être vrai. Pourquoi je dis ça? Mais parce que je vous ai raconté là l'histoire l'autre jour là de ce saint libanais fantastique, hein, saint Charbel Maclouf, hein, dont la tombe au XXe siècle répand comme ça des odeurs suaves. Eh bien, je continue le récit. À l'instant, 73 malades recouvrèrent la santé. Et pourquoi pas? Ce saint Charbel Maclouf en fait autant au Liban et de nombreux autres saints en ont fait autant au cours des tout derniers siècles devant, dit-on, des témoins sérieux. Après avoir baisé les reliques, on referma le cercueil et on porta celle de Saint-Étienne en chantant des psaumes et des hymnes à la Sainte Église de Sion, c'est-à-dire l'Église de Jérusalem, quoi, qui est construite sur le mont Sion, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais ça veut dire aussi l'Église de Sion, c'est l'Église qui est au ciel. Hein. Les saints sont au ciel. Donc, des hymnes à la Sainte Église de Sion, où il avait été ordonné archidiacre. On nous abandonna quelques parcelles des membres du saint, que dis-je, des parcelles de très grandes reliques, de la terre et de la poussière de l'endroit où toute la chair de son corps était consumée, et on emporta le reste. Ma translation s'est faite le 26 décembre, voyez-vous, 415. À cette époque régnait depuis longtemps une sécheresse désolante. Mais alors même, la pluie tomba en abondance et abreuva la terre. Et plus loin, on dit que Jean fut certainement, l'évêque, là, fut certainement très content de recevoir pendant le concile de Lydda un bon prêtre qui, au lieu de lui susciter des embarras théologiques, lui proposait de rendre à la chrétienté les reliques du premier martyr. Et de fait, cette découverte fut accueillie avec enthousiasme. Bon, je passe sur tout le reste et puis j'en viens à des choses intéressantes. Jean transféra donc le 26 décembre 415 les reliques de Saint-Étienne à la Sainte Sion, dont je viens de vous parler, le Jérusalem, la grande église de Jérusalem bâtie à l'emplacement du Cénacle. Le Cénacle, vous savez tout ce que c'est, n'est-ce pas? C'est l'endroit où Jésus a célébré, pour ainsi dire, la première messe, où a institué l'Eucharistie, la veille de sa mort, le Cénacle à Jérusalem. Donc, la grande église de Jérusalem bâtie à l'emplacement du Cénacle, il les déposa provisoirement dans le diaconicon. Il mourut 2 ans plus tard. Son successeur, Prèle, eut un épiscopat assez court. C'est à Juvénal que revint le mérite de faire élever une basilique où les reliques furent apportées le 15 mai de l'an 439 dans une grandiose cérémonie présidée par le patriarche d'Alexandrie en Égypte, Cyrille. Ça devait être beau, ces cérémonies-là. Hein? C'était tellement beau. Je me souviens, dans ma jeunesse, on avait encore de grandes cérémonies fantastiques. C'était beau. L'impératrice Eudoxie, qui habitait Jérusalem, justement de 438 à 439, et de 444 jusqu'à sa mort en 460, elle a eu une espèce de passion, si on peut dire, pour la basilique Saint-Étienne, auprès de laquelle elle a préparé son tombeau. C'était une grande impératrice, Eudoxie. On voit de ces mosaïques magnifiques qui la représentent, des mosaïques très anciennes qui datent de cette époque à Ravenne. Alors, elle a remplacé la première construction par une basilique très spacieuse et un grand monastère fortifié qui ont été consacrés le 7 mai 484 par le patriarche Martyrios. Et l'ensemble, imaginé, formait le plus vaste établissement religieux de Jérusalem. Et c'est là qu'en 513, Saint Sabas a organisé sa grande manifestation anti-monophysite. Hein? Oh, je vous ai déjà parlé de ça, je n'y reviens pas. Les monophysites étaient séparés de l'Église. Bon, malheureusement, cette somptueuse basilique, il n'y en reste plus rien. Elle a été ravagée par les Perses en l'an 614. Si ce n'eût été de toutes ces guerres, comme nous aurions de beaux édifices encore plus beaux peut-être que ceux qui nous restent. Heureusement qu'il nous reste de belles cathédrales et de somptueux bâtiments magnifiques où il fait bon se rassembler pour prier à travers le monde. Et alors c'était détruit en 614 par les Perses. Le patriarche Modeste, c'était son nom, n'a pas pu la relever. Son successeur Sophrone s'est contenté de rétablir un petit oratoire auprès duquel il a enseveli les 10 soldats martyrisés en l'an 638. Et cet oratoire existait encore lors de la prise de Jérusalem par les croisés, puis il a été dévasté à son tour en l'an 1113, puis reconstruit, puis en 1187, quand le fameux Saladin, le grand chef musulman, qui était un sage aussi en même temps, victorieux à Attine, s'approchait de Jérusalem, mais les chrétiens l'ont détruit pour préparer la défense de la ville. Et il n'a pas été relevé. Progressivement, son souvenir s'est effacé au point qu'on en a cherché l'emplacement, non plus au nord de la ville, mais à l'est, dans le ravin de Cédron. C'est juste pour vous indiquer un peu jusqu'à quel point les guerres sont dévastatrices. Combien les guerres nous ont fait perdre tellement de belles choses. L'église Saint-Étienne a été redécouverte en 1882, et l'emplacement a été acheté par le père Mathieu Lecomte, un dominicain, qui était assisté par nul autre que le père Marie-Alphonse Ratisbonne, dont je vous raconterai la vie un jour, ce grand juif merveilleux, qui s'est converti de façon miraculeuse à Rome, dans l'église Sant'Andrea delle Frate, par une apparition de la Vierge fantastique, et qui s'est converti en un instant. Il possédait toute la croyance catholique. En un clin d'œil, il s'est fait prêtre, il a fondé les pères et les sœurs de Sion, avec son frère jésuite qui l'a rejoint dans sa congrégation. Car il avait un frère aîné qui s'était converti, qui était devenu jésuite, et qui ne connaissait guère. Alors, les fouilles ont révélé de larges fragments du pavement de mosaïque de la fameuse basilique d'Eudoxie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, sur les fondations de laquelle a été élevée une nouvelle église qui a été consacrée le 13 mai 1900. C'est sans doute inutile de rappeler que l'école biblique des dominicains français est installée dans le couvent voisin. Vous devez savoir ça, j'espère, non? Il y a une grande école biblique à Jérusalem. Ce sont les dominicains français qui ont fondé ça. C'est fantastique. Voilà des choses qu'il faut savoir, que dans l'Église, il y a des grands savants qui étudient la Bible depuis longtemps. Et c'est donc dans le couvent voisin de cette Église. Aujourd'hui, on peut penser à ça à l'occasion de la fête de Saint-Étienne. Et ce couvent, cette école biblique tient une place de premier plan dans l'exégèse de la Bible, dans l'analyse de la Bible, dans tout le christianisme mondial. Et la célébration de la fête de Saint-Étienne a été marquée par son incidence au lendemain de Noël. Parfois, elle est oubliée aujourd'hui, mais autrefois, on la fêtait davantage. Elle a été facilement accompagnée de réjouissances variées, avec la participation des diacres qui fêtaient leur patron. Ce serait la fête aujourd'hui des diacres. Mais les fatigues de la nuit de Noël ont toujours justifié une espèce d'accalmie, puis on célèbre moins solennellement la fête de Saint-Étienne. Tout en constatant que les églises Saint-Étienne sont nombreuses dans toute la chrétienté, ici au Québec aussi, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on peut remarquer qu'en France, il y a même 70 communes qui portent le nom de Saint-Étienne. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs ne portent plus le nom de Saint-Étienne, mais des déformations du nom de Saint-Étienne. Je vous l'ai fait remarquer, c'est juste amusant en passant ça. Il faut bien se reposer un petit peu. Saint-Estèphe, Ça veut dire Saint-Étienne. Estephe. E-S-T-E, accent grave, P-H-E. Je sais qu'il y a du bon vin qui vient de Saint-Estèphe. J'en ai déjà bu. Oh, boire un Saint-Estèphe. C'est très bon. Saint-Estève aussi. Ça veut dire Saint-Étienne. Saint-Esteben. Esteben. Saint-Stel ou Stail. S-T-A-I-L. C'est curieux, hein? Ça veut dire encore Saint-Étienne. Et même, croyez-le, croyez-le pas, Saint-Aille. Ben oui, si vous voyez ça, Saint-Aille, c'est pas de l'ail. Ça s'écrit comme A-I-L, mais ça vient de Saint-Étienne. Mais oui, c'est de la déformation. Saint-Stail, Saint-Aille. Tout ça, ça vient de Saint-Esteben, etc. Et même Donstienne, D-O-N-S-T-I-E-N, deux N-E-S, là. Donstienne, ou bien même Dontaille. Ça vient des villes qui s'appelaient Saint-Étienne autrefois. Ça a toujours été populaire. Ce serait imprudent de croire que toutes les églises qui l'ont pour patron sont de fondations très anciennes. Beaucoup le sont à travers la France. Grégoire de Tours, qui a vécu très, 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 très longtemps, mentionne l'église Saint-Étienne de Bourges et l'autre de Clermont, de Metz, de Tours, de Marseille. On a souvent noté que Saint-Étienne était, après la Vierge d'ailleurs, le saint qui avait le plus de cathédrales françaises sous son patronage. Saviez-vous ça? Moi, j'ignorais ça. Quand j'ai découvert ça, je n'en revenais pas. C'est Saint-Étienne en France qui est le patron de plus de cathédrales après la Vierge. Quelles sont ces cathédrales? Agde, Agen, Arles, Auxerre, Besançon, Bourges, oui, Bourges, Cahors, Chalon-sur-Marne, Chalon-sur-Saône, Fréjus, même Limoges, Meaux, cathédrale de Meaux, où était, comme je vous ai dit l'autre jour, Bossuet, Metz, ou Metz, si vous voulez, mais ça se prononce Metz, Saint-Brieuc, Sens, Toul, Toulouse. On serait peut-être surpris d'apprendre que cette liste pourrait être allongée si l'on ne tenait pas compte seulement des vocables actuels, mais des éléments qui, à la fin de l'Antiquité, puis durant le Haut Moyen-Âge, ont constitué le groupe épiscopal dont on peut voir encore aujourd'hui un exemple à Fréjus, où subsiste côte à côte une église dédiée à la Vierge, un baptistère dédié à Saint-Jean et une autre église dédiée à Saint-Étienne. Et dans la plupart des cas, bien, la cathédrale rebâtie au XIIe ou au XIIIe siècle, bien, elle a absorbé puis unifié les éléments en éliminant un des saints patrons, aux dépens de l'autre. Et si Saint-Étienne a été maintenu dans les cathédrales que nous avons énumérées le plus haut, bien, il a disparu à Aix-en-Provence, à Valence, à Lyon, à Paris, etc. Bon, je vous en fais grâce. Disons simplement en terminant que l'iconographie, c'est-à-dire les images de Saint-Étienne, ne présentent pas de difficultés d'interprétation spéciale. Pourquoi? Parce que les artistes ont toujours représenté les scènes en les tenant des actes des apôtres. Alors on montre Étienne seul, habillé comment? En diacre, évidemment. Hein? Les diacres étaient habillés comment? Ils portaient des dalmatiques jusqu'à tout récemment. Oui, oui, les diacres portaient de belles dalmatiques. On trouve ça encore dans l'église anglicane. Ils les ont gardées, eux. Et puis, en Occident, on donne volontiers des attributs aux saints, mais on aperçoit toujours quelques pierres à terre, à ses pieds, parce qu'il a été lapidé, et les pierres sont rougies de son sang. Alors, quand vous voyez des illustrations comme ça, c'est Saint-Étienne. Et de toutes les représentations fantastiques de Saint-Étienne, je crois devoir vous signaler quelque chose d'assez étonnant. C'est des peintures qui ont été exécutées avant l'an 859. Puis on a même le nom de l'auteur, ce qui est exceptionnel. Il s'appelait Crediloso. C'est dans la crypte de Saint-Étienne d'Auxerre, en France. Je suis allé voir ça. Et on voit encore très bien trois scènes. On voit Saint-Étienne qui est devant le Sanhédrin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On voit même les membres du Sanhédrin qui se jettent sur Saint-Étienne pour l'entraîner hors de la ville. Puis la troisième scène, bien, on voit la lapidation. Ou comme s'il était insouciant des pierres qu'il frappe, bien Saint-Étienne, le corps penché en avant, il lève le visage vers le ciel, puis tend les mains dans un geste d'offrande à Dieu. Voilà le grand saint, ce premier saint que l'on fête après la naissance de Jésus, après Noël. Alors de ces peintures qui sont les plus anciennes conservées en France, et qui s'inspirent certainement de modèles plus anciens encore, Bon, on peut dire qu'elles illustrent très bien le récit des actes des apôtres avec une perfection qui aurait peut-être jamais été égalée depuis, hein? Car nul artiste, on peut dire, n'a su comme ce fameux Crédiloso traduire l'expression très spéciale, on dirait l'expression ineffable de saint Étienne au moment où il s'offre à Dieu. Alors, où pouvez-vous aller voir ça? Mais quand vous passez par Auxerre, ceux qui ont la chance d'aller en France, là, vous voyez ça dans la crypte de Saint-Germain d'Auxerre. Aujourd'hui, c'était aussi la fête d'un bienheureux que j'aime énormément, Jacopone de Todi, un franciscain. Ah, un fou de Dieu! Il est mort en l'an 1306. Mais c'était un homme assez exceptionnel qui venait d'une bonne famille bourgeoise. Il a étudié le droit à Bologne, il était juriste, un avocat, puis il s'est marié, puis tout ça, puis tout a sombré, puis il est devenu un fou de Dieu. Un fou de Dieu. Il a écrit des poèmes magnifiques. Et il a écrit en particulier, je vous lis un petit passage. « Il me paraît raisonnable et noble d'être fou pour le beau Messie. Il me paraît très sage qu'un homme désire devenir fou pour Dieu. » Ah, je vous en parlerai l'an prochain. J'aurais aussi pu vous parler de Monseigneur de Saint-Vallier, quel évêque merveilleux à Québec, qui est mort en disant « Oubliez-moi, ça n'a pas d'importance, mais n'oubliez pas mes pauvres. » Évêque de Québec. Ah, il avait lutté contre Louis XIV. Quel homme magnifique, ce Monseigneur de Saint-Vallier. Ah, c'est aussi la fête de ce Philippe dont je vous ai parlé tout à l'heure, martyr en 1940 au Vietnam. Mais enfin, on ne peut pas parler de tout. Je vous signale que la belle musique que vous avez entendue au cours de cette émission, trop brièvement, était extraite des motets et offertoires de Mozart, un disque que vous pouvez vous procurer à Radio Ville-Marie en téléphonant chez nous ici à Radio Ville-Marie où nous sommes actuellement en direct. 382-3913, 382-3913. D'autre part, si vous désirez la cassette de cette émission ou d'autres émissions de rencontres spirituelles depuis le début de mai dernier, nous approchons des 200 là, eh bien, vous pouvez les procurer en téléphonant 374-3785. 374-3785. Je vous souhaite encore un beau temps d'après Noël, beaucoup de joie, beaucoup de sens de la présence du Christ qui nous habite. Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons en lui, nous y ferons notre demeure. Jésus nous habite. Et ne négligez pas d'aller célébrer à l'église, même sur semaine, d'être fatigué, allez-y quand même. Recevez le Christ dans votre cœur. Faites comme les saints, et vous serez heureux.